À Terni, ils remontèrent le cours de la Nera où tombaient des cascades étincelantes. Cette montagne d'eau vive les avait un instant fascinés. Mais ils n'étaient pas venus pour jouir de la solitude. Ils devaient convertir Rieti, où, leur avait-on dit, les gens tournaient au paganisme à cause de la douceur de la terre dans cette vallée heureuse. Quand, après avoir longé le lac de Piediluco, resserré entre les monts réatins, ils arrivèrent au col qui dominait le val, leurs yeux leur avaient semblé caresser de la lumière. Tout le paysage s'offrait à eux. N'était-il pas toujours le même, avec ses damiers d'eau, de champs, de vergers, de bois? Certains monts brillent, couverts d'une première neige, mais toutes les couleurs de l'automne se disputent les vignes et les arbres dans une brume dorée. Ils avaient d'abord gagné droit à la montagne, là où tout en haut le bleu du ciel avait l'air de découper les sommets. Le village de Poggio Bustone dominait vertigineusement la vallée, et ils y avaient salué tous les habitants qu'ils rencontraient d'un joyeux « Bonjour, braves gens !» Immédiatement adoptés, ils étaient montés plus haut, pour réparer un petit ermitage construit au-dessus de quelques rochers creux et que leur donnaient les bénédictins. Plus tard dans la saison, ils descendirent dans la vallée. Rieti était superbe dans sa ceinture de remparts bas, crénelée, comme une couronne de combat royal dessinée par un enfant. Si païens fussent-ils, les habitants ne demandaient pas mieux que de les accueillir et de les écouter, et leur apportaient des poissons et des fruits. La douceur du climat inclinait à la douceur des âmes. Un jour, François croisa un chevalier splendide dans son armure qui le salua courtoisement. Alors il lui dit « Jusqu'ici, tu as servi magnifiquement le monde avec ton épée et ton bouclier. Tu es un parfait chevalier. Désormais, tu porteras une tunique de laine rude et une corde autour des reins, et tu seras le chevalier du Christ. » C'est ainsi que, laissant là son armure, Ange Tancrède de Rieti suivit François. Parti à sept, il revenait avec un nouveau compagnon, et la vallée de Rieti fut toujours l'endroit privilégié où François aima se réfugier, même à l'heure des grandes souffrances. Homme de sac et de corde. Quelle force mystérieuse attirait des hommes vers ce petit groupe qu'ils voyaient passer, chantant dans les rues des villes perchées sur les hauteurs ombriennes ou par les champs et par les bois. Pieds nus, une corde pour ceinture, vêtus en pauvre avec une robe qui ressemblait à un sac, mais joyeux comme des enfants, ils semblaient venus d'un autre monde où la tristesse n'existait pas. Pouvait-on, ne possédant rien, vivre heureux sur cette terre? L'âge d'or était-il là? Assise observait avec une vague admiration, mais non sans malaise, ces guenilleux qui dérangeaient les idées reçues. Et tout cela au nom du Seigneur. L'un après l'autre, quatre nouveaux venus, des Assisiates, se présentèrent. Sabatino, Morico, Jean de Capella, Philippe le Long. Sabatino qui demeura obscur. Morico, un religieux qui soignait les lépreux, atteint déjà par ses blancheurs de peau morte, il avait appelé François au secours et fut guéri par un électuaire composé par celui-ci. Des miettes de pain trempées dans l'huile puisées à la lampe qui veillait toujours depuis l'autel de la Vierge. Puis Jean de Capella, ainsi nommé parce qu'il portait un bonnet par-dessus sa capuche et qui fut, disent certains, le Judas de la bande. Là, un doute se lève. Pourquoi fallait-il qu'il y eût un Judas? Pour établir une ressemblance avec le récit évangélique? L'idée ne vint certainement pas de François, mais les légendes ne se font pas toutes seules et il faut se méfier des légendes. L'accusation ressemble à un règlement de compte du temps de Saint Bonaventure. Jean de Capella créa une communauté de lépreux et eut l'idée d'une fraternité parallèle. Mais les interventions de la curie romaine provoquèrent une mise au point de François à son retour d'Égypte, et rien n'indique que Jean de Capella ne se soumit pas immédiatement à celui que, jeune, il avait rejoint. Philippe le Long, originaire d'un village sur l'autre versant du